Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste, Le Sympathisant, une série originale HBO, à regarder dès maintenant sur Crave.
Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace qui est de retour cette semaine après une petite semaine de pause. Et oui, je suis allé faire un tour au soleil au cours des derniers jours, ça perd un petit peu. S'il vous plaît, ne pas m'en vouloir. J'avais besoin de prendre un petit répit, alors j'ai pris du repos beaucoup la semaine dernière et je suis de retour en pleine forme pour attaquer un stretch de ma saison qui est toujours assez intense. Quand arrive le 1er décembre, nomination des joueurs invités au camp de sélection d'équipe Canada Junior, le camp d'équipe Canada Junior aux alentours du 9-10 décembre, les matchs préparatoires et bien sûr le Mondial Junior qui commence le 26 décembre. Alors, c'est une grosse période pour moi. Alors, la semaine dernière, profiter du fait que le Rocket était à l'étranger, qu'on n'avait pas de match en fin de semaine, la fin de semaine qui vient de passer à domicile à présenter. Alors, je me suis sauvé, mais je suis de retour bien heureux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que il s'est passé plein de choses au cours de la dernière semaine dans notre champ d'activité dont on parle à chaque semaine, que ce soit le hockey junior, le hockey du Rocket, les espoirs du Canadien. Plein de choses pour vous aujourd'hui. Trois entrevues à vous présenter que j'ai réalisées un petit peu plus tôt aujourd'hui. Dans quelques instants, on va s'entretenir avec Xavier Simoneau, une des meilleures recrues de la Ligue américaine qui s'aligne pour le Rocket de Laval, faire un peu le bilan de ce premier quart de saison là, qui est déjà passé pour le Rocket. On va s'entretenir également avec le nouvel entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, Éric Bélanger, qui a laissé les Lions de Trois-Rivières la semaine dernière et pour s'amener à Drummondville dans la Ligue junior majeure du Québec, il en sera abondamment en question. Et on va parler également avec Jordan Dumais, le meilleur pointeur de la Ligue canadienne de hockey au moment où on se parle, devant Connor Bedard des Pats de Regina. Jordan Dumais qui a signé son premier contrat professionnel avec les Blue Jackets de Columbus au cours des derniers jours. Alors, plein de choses pour vous. Des petites surprises aussi, des annonces qui sont à venir cette semaine. Alors, on a beaucoup de matériel pour vous au cours des prochaines minutes. Comme on le fait chaque semaine, on va amorcer notre tour d'horizon avec la dernière semaine du Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Le moins que l'on peut se dire, c'est que c'est pas facile pour le Rocket. On n'est pas capable, on est rendu à 20 matchs de jouer. Donc, on a passé le quart de la saison. Le quart de la saison, c'était 18 matchs. Ça a été une défaite mercredi dernier à domicile dans un match qui était présenté en web diffusion contre les Canucks d'Abbotsford, 3-2. Un match que le Rocket aurait pu, comme c'est souvent le cas, on l'a dit souvent cette saison, aurait pu gagner, mais n'a pas gagné. Puis par la suite, on a joué deux autres matchs à Belleville vendredi et samedi. Une victoire de 7-5 et une défaite de 4-1. Une défaite au cours de laquelle le Rocket a obtenu 50 tirs au but contre Antoine Bibeau, le gardien des Sénateurs de Belleville. Bref, après 20 matchs, le Rocket est dernier de la section Nord avec 6 victoires, 11 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. 6 victoires seulement en 20 matchs. Pas certain que c'était le scénario escompté là, en début de saison. En fait, je suis certain que c'était pas le scénario escompté. Le Rocket accorde beaucoup trop de buts, presque 4 buts par match, 79 buts accordés en 20 matchs. C'est un peu ce qui fait défaut avec le Rocket depuis le début de la saison. Le jeu défensif, la tenue des gardiens de but et aussi, il faut le dire, à plein d'occasions, le manque d'opportunisme. Alors, pour le Rocket de Laval, donc, la prochaine semaine va amener l'équipe à Utica, mercredi, et vendredi, plutôt samedi et dimanche prochain, l'équipe s'en va en Colombie-Britannique pour affronter de nouveau les Canucks d'Abbotsford, une équipe qu'on vient de jouer deux fois à Laval au cours des deux dernières semaines. C'est le club école, évidemment, des Canucks de Vancouver. Alors, comme le club école des Canucks est en territoire canadien maintenant, bien, le Rocket, même même si Abbotsford est une équipe de l'Association de l'Ouest, joue quand même, comme c'est le cas avec le Moose du Manitoba, contre le Rocket durant la saison. Ça fait changement un peu des belles villes Utica, Syracuse et qu'on voit régulièrement Rochester. Alors, deux matchs donc à Abbotsford. Le retour à la Place Belle se fera seulement le 9 décembre contre les Sénateurs de Belleville, donc vendredi, dans une dizaine de jours. Je vous le mentionnais un petit peu plus tôt. Je me suis entretenu avec Xavier Simoneau plus tôt ce matin. On a parlé évidemment de son début de saison. On a parlé des perspectives pour le Rocket, de son saut dans les rangs professionnels. 19 matchs de jouer maintenant pour Xavier Simoneau. Honnêtement, il connaît un excellent départ avec le Rocket. C'est très intéressant. Alors voici cet entretien réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Xavier Simoneau, attaquant du Rocket de Laval. Premièrement, Xavier, je pense qu'il est de mise après un quart de saison là, de faire un peu le bilan de ce qui se passe. On va parler d'abord de l'équipe avant de parler de toi personnellement. C'est un difficile début de saison. On n'a pas réussi encore depuis le début de la campagne à coller deux victoires de suite. Est-ce que c'est comment on explique ça? Vous avez des bonnes performances, mais on n'arrive pas à gagner les matchs?
Oui, c'est ça. C'est tough mentalement de toujours être proche d'y arriver, mais on y arrive pas depuis le début de la saison. Le samedi passé, je pense que on était là tout le match, on a eu beaucoup de chances de marquer. Encore une fois, on manque un peu d'opportunistes aussi, mais on est là à chaque match, mais c'est sûr que c'est décevant de ne pas être capable de coller deux victoires.
Un des problèmes récurrents qu'on a soulevé, nous, à RDS, en présentation des matchs, c'est que vous tirez souvent de l'arrière. Vous accordez souvent le premier but, puis après ça, on dirait que vous courez toujours au hockey de rattrapage, puis ça vient que c'est ça qui use. Est-ce que je me trompe? Ou?
Non, 100%. On dirait que c'est depuis le début de l'année, c'est comme ça. Puis, on regardait ça avec les gars. L'autre fois, je pense qu'on a deux buts dans un filet désert. Je pense qu'on a eu deux fois que c'est arrivé en fin de match qu'on avait les devants, puis que c'était eux, il fallait qu'ils reviennent à l'arrière. Ça a souvent été nous qui tirent à l'arrière. Fait que c'est sûr que c'est dur, tu sais, tout le temps être en troisième période, puis de tirer de l'arrière, puis de d'en demander plus. Ça demande aux défenseurs aussi d'être plus agressifs, puis de demander plus. Mais on dirait que c'est ça l'histoire de notre début de saison présentement.
On parle de la semaine qui s'en vient pour vous, c'est trois matchs à l'étranger, dont un voyage dans l'Ouest. Comment on voit ça? Je ne vais pas dire que c'est des matchs importants, capital pour participer aux séries ou pas, mais en même temps, on ne veut pas creuser l'écart. Là.
Non, puis chaque match est important. Je vous dis, même s'il en reste beaucoup à jouer, je pense que ça va nous faire du bien aussi. Ça fait longtemps quand même qu'on est revenu de Belleville, on repart encore sur la route. Ça va faire du bien d'être tous les gars ensemble aussi. Puis tu sais de se rapprocher tous les boys ensemble, c'est un voyage qui va être le fun aussi. C'est même moi puis quelques joueurs, c'est la première fois qu'on s'en va à Vancouver, donc ça va être quelque chose de fun.
Utica, c'est l'équipe aussi avec laquelle vous êtes en lice en ce moment au classement là. Puis ils ont eu quand même des retours là, de l'équipe de la Ligue nationale. Ça sera pas facile là.
Non, c'est ça, on est allé acheter une grosse victoire l'autre fois là-bas, donc c'est comme tu viens de dire, il y a des gros morceaux qui sont redescendus d'en haut. Fait qu'on faut garder la même mentalité qu'on a joué à Belleville l'autre fois. Je pense qu'on a joué un match solide, mais il faut trouver une façon de gagner, là, ça c'est sûr.
Je veux qu'on parle de toi, évidemment. Le plus gros ajustement après 5 ans dans la LHJMQ de passer à ce niveau-là, c'est comment tu vois ça? C'est-tu comme tu t'attendais? Moi, je suis de ceux, je ne sais pas si tu es d'accord, qui dit que c'est plus difficile du junior à la Ligue américaine que de la Ligue américaine à la Ligue nationale. Je ne sais pas ce que tu en penses là, après 20 matchs.
J'ai pas eu. Ça n'a pas été facile au début pour vrai. Jeff m'a assis un match aussi, mais c'était pas. On s'est parlé aussi, on a fait du vidéo aussi. Je te dirais que les deux, trois premiers matchs, je trouvais que ça allait vite. J'essayais de trouver mes repères. C'est juste le fait d'être allé un match dans les Astrales, ça m'a permis de voir la game d'en haut, de voir où est-ce que j'avais plus d'espace aussi avec la rondelle. Junior, tu peux finir avec 3 points, même si tu finis, même si t'as pas bien joué, t'as tellement d'espace, ben pas tellement, mais t'as beaucoup plus d'espace avec la rondelle. T'es rendu ici, on dirait, je faisais ça à mes premiers matchs, puis ça marchait pas du tout, donc je me suis ajusté, puis jusqu'à présent, ça va bien.
D'avoir passé le quart de la saison, de voir ton nom parmi les meilleurs recrues de la Ligue américaine, 16 points en 19 matchs, est-ce que tu es un peu surpris ou non, si tu t'attendais peut-être à ça? Là?
Non, je m'attendais pas à ça du tout. Je suis quelqu'un qui travaille fort sur la passe-noire puis en dehors, donc Je suis content que ça porte fruit, mais on dirait que c'est un peu plus décevant d'être là et de pas être au même niveau avec le classement d'équipe là. Donc tu sais, oui, c'est le fun. J'apporte quand même ce que je suis capable avec lui, mais ce serait le fun de coller des victoires.
Je me souviens l'an passé, tout ça, on comparait beaucoup ton style, puis même toi, tu avais beaucoup parlé de Raphaël Harvey-Pinard, tu sais, que ça pouvait servir un peu de motivation, ce que lui avait fait, avait été repêché tard, lui aussi, un peu comme toi, petit gabarit, un peu comme toi. À sa saison recrue, il a fait 20 points en 36 matchs. T'es drôlement en avance sur lui. Je sais pas si tu le taquines un peu avec ça, ou je sais pas si, mais tu sais, tu peux t'inspirer de ça. Il avait fait 20 points en 36 matchs, alors ça va vraiment bien à ce niveau-là pour toi, là.
Ouais, tu sais, mais je suis pas quelqu'un qui, tu sais, les points, je regarde, tu sais, je sais même pas combien il avait fait de points sa saison recrue. C'est une personne qui est le fun à côtoyer aussi. C'est un gars qui travaille assez fort, comme moi aussi, puis il est plus vieux aussi, il a de l'expérience. Donc c'est sûr que, tu sais, mon premier camp à Montréal, je le suis, mais même encore aussi, c'est une personne que j'adore suivre ses traces, là.
Il y a quelques matchs qu'on vous a réunis sur le même trio. C'est un bon fit.
Ouais, tu sais, je pense qu'on est assez fatigant pour l'adversaire. Tu sais, je pense pas que l'adversaire et le défenseur sont contents quand on est sur la glace. Mais oui, c'est sûr que j'aime ça jouer avec Raph.
Je sais que c'est tôt, là, puis tu vas me dire, hey, je pense pas à ça, puis tout ça, tu sais, mais je vais t'en nommer un fatigant. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'avoir vu jouer. Il s'appelait Darcy Tucker. Ça te dit-tu quelque chose?
Pas
Pas
vraiment, non.
vraiment, hein? C'est ça que j'ai eu peur, c'est pas trop longtemps, mais écoute, c'était un joueur de petit gabarit qui, c'est le dernier joueur de l'organisation du Canadien qui a été recrue de l'année dans la Ligue américaine, puis je fouillais ça pour le fun tantôt, puis quand j'ai vu son nom, j'ai fait, ben oui, ça ressemble à Xavier Simoneau, c'est le même genre de joueur, tu sais, c'était une petite peste, comme on appelle là, un petit fatigant, puis tout ça, il y avait, tu sais, il y a une époque qui est différente, il avait amassé 90 points dans la saison, là, je dis pas que tu vas te rendre là, mais tu sais, c'est une autre époque, c'est un autre, mais en tout cas, tu feras tes petites recherches, Darcy Tucker, ça peut être une belle inspiration, puis un Québécois, il y a deux Québécois qui ont gagné ce trophée-là aussi, puis eux, je sais que tu les connais, Alex Barré-Boulay, que tu joues encore contre, puis Daniel Brière, un gars de ta région, tu sais, ça arrive pas souvent que des Québécois ont été parmi les meilleurs dans la Ligue américaine, peux-tu être des motivations, quoi?
Ouais, c'est sûr que, tu sais, de voir que ces gars-là l'ont fait, c'est sûr que c'est le fun. Daniel vient de mon coin aussi, donc mais tu sais, c'est quand même assez tôt dans la
Ouais,
saison,
c'est 30 secondes.
comme tu viens de dire. Tu sais, je veux pas, au contraire, je veux vraiment pas mettre de pression, parce que quand tu mets trop de pression, c'est là que des fois que ça commence à mal aller. Je veux juste continuer à bien faire les choses, puis les points vont venir tout seuls.
Ben, Xavier, on va souhaiter que le Rocket retrouve le chemin de la victoire et qu'il réussisse finalement à gagner deux matchs de suite. Ça serait déjà une bonne chose là, pour éviter de prendre le recul. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne séance d'entraînement. Bonne semaine avec l'équipe.
Merci beaucoup.
Merci. Salut.
Salut. Voilà donc Xavier Simoneau, attaquant du Rocket de Laval, Darcy Tucker. Quand j'ai fait le lien un peu plus tôt avec l'entrevue de Xavier, je me suis dit, ben oui, tout à fait. Ceux qui se souviennent de Darcy Tucker, qui a été champion de la Coupe Memorial 3 ans sur 4 avec les Blazers de Kamloops au début des années 90, qui avait été repêché par les Canadiens, échangé à Tampa Bay, a connu ses meilleurs moments avec les Maple Leafs de Toronto, quand même joué 900 matchs dans la Ligue nationale, a terminé ça avec l'Avalanche du Colorado. Darcy Tucker et Xavier Simoneau, il y a des similitudes. Je ne sais pas si Xavier Simoneau va avoir la carrière de Darcy Tucker, 900 matchs dans la Ligue nationale, c'est peut-être beaucoup, mais il n'en demeure pas moins que c'est le même genre, le même prototype de joueur qu'on voit depuis le début de la saison. En tout cas, chez le Rocket, il y a beaucoup de déceptions en ce début de saison au niveau du rendement de l'équipe, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais Xavier Simoneau, c'est assurément la meilleure histoire là, dans le camp du Rocket, avec les 12 buts d'Anthony Richard aussi au cours des 20 premier match, là. On peut parler de réconfort à ce niveau-là. Petite nouvelle dans la Ligue américaine, tantôt dans l'entrevue, lorsque j'ai réalisé l'entrevue ce matin avant la séance d'entraînement avec Xavier Simoneau, je parlais que la formation des Comets de Utica avait obtenu du renfort du New Jersey. Ben, finalement, c'est le contraire. New Jersey a rappelé ce matin Alexander Holtz, Kevin Ball et le gardien Nico Daws. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le Rocket. En principe, ils n'auront pas Holtz, Balls et Daws dans les pattes mercredi lorsqu'ils vont se rendre à Utica dans l'État de New York. Petit mot également sur l'attaquant québécois Jacob Pelletier des Wranglers de Calgary. Déception en début de saison de ne pas s'être taillé une place avec les Flames, mais Pelletier tel qu'on le connaît, beaucoup de caractère, a relevé ses ses manches. Et au cours des 10 derniers matchs, c'est le joueur le plus hot de la Ligue américaine. Il a 17 points à ses 10 derniers matchs. Il va finir par obtenir, un peu comme Samuel Poulin plus tôt cette saison, il va finir par obtenir assurément son rappel pour les Flames de Calgary. Présentement, Pelletier est au 9e rang des pointeurs du circuit avec 21 points en 18 matchs. Alors, vous voyez, 17 à ses 10 dernières, ça veut dire qu'il n'avait que 4 points à ses 8 premiers matchs. Ça avait été un peu un début de saison difficile. Le Crunch de Syracuse vient de récupérer Alex Barré-Boulay, justement, j'en parlais dans l'entrevue, ancienne recrue de l'année dans la Ligue américaine, le Lightning de Tampa Bay l'a retourné à Syracuse. Et Trayfix Bolanski est toujours avec Columbus après ses 3 matchs, après ses matchs là, à Belleville et à Laval la semaine dernière, où il avait obtenu là, quoi, 13 points en 3 matchs. Il avait été tout simplement sensationnel. Alors, il avait obtenu son rappel avec Columbus. Est-ce qu'il demeurera en haut? L'histoire le dira. Pour l'instant, il est dans la Ligue nationale. De la Ligue américaine, on va passer à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comme à chaque semaine, j'aime faire le tour un peu de chacune des formations, division par division. Ça a été une semaine difficile pour les Olympiques de Gatineau. 3 défaites, seulement 4 matchs. On a hâte de plus en plus au retour des blessés. Antonin Verreault est revenu au cours des derniers matchs, mais il manque encore évidemment Olivier Nadeau notamment. Il manque Mannix Landry éventuellement. Et je persiste à dire que les Olympiques n'auront pas le choix là, d'aller chercher un gardien de but. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'Antoine Coulombe des Cataractes de Shawinigan, surtout que Coulombe n'a pas été en uniforme au cours des derniers matchs du côté des Cataractes. C'est une histoire à suivre. Coulombe, évidemment, qui a conduit les Cataractes à la conquête de la Coupe du Président l'an passé avec Charles-Antoine Lavallée. Les Huskies de Rouyn-Noranda, ben encore une fois, l'art des Maritimes leur a bien scié au cours du week-end. 2 victoires en 3 matchs. Eux qui avaient balayé leur premier voyage dans les Maritimes. Rouyn-Noranda qui a vaincu Moncton et Saint-John, mais qui a perdu à Bathurst malgré 49 tirs au but. 5 victoires en 6 matchs pour les Huskies en sol des Maritimes en cette saison. C'est une excellente récolte. Les Foreurs de Val-d'Or ont disputé le 2000e match de leur histoire le 19 novembre dernier, une défaite à la maison de 4-3 contre Moncton. Mais eux, ils ont balayé leur voyage dans les Maritimes au cours du week-end. Des victoires à Halifax, à Charlottetown et à Saint-John. Donc, les Foreurs sont au plus fort de la course dans la section ouest de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils connaissent de bons moments. L'Armada de Blainville-Boisbriand, ben, c'est plus difficile. 4 défaites de suite, 3 défaites sur la route au cours de la semaine à Drummondville, à Chicoutimi et Sherbrooke. Et on a appris ce matin, parlant de l'Armada, et je vais en discuter un petit peu plus tard, on a cédé du côté de Halifax l'attaquant Josh Lawrence, qu'on avait acquis à la séance de sélection l'an passé. C'est un gars qui s'amenait avec l'Armada fort d'une saison de 100 points dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'an passé. Josh Lawrence, qui a quand même bien amorcé la saison, 32 points en 25 matchs. Il était au 14e rang des pointeurs du circuit. Et là, l'Armada l'a cédé à Halifax, moyennant des choix de première ronde en 2024 et deuxième ronde en 2023. Mais je me suis laissé dire qu'il y aurait au moins un autre joueur impliqué dans cette transaction-là. Ne vous surprenez pas de voir un joueur quitter Halifax vers l'Armada le 18 décembre prochain. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en temps régulier, il y a seulement les joueurs de 20 ans, les Européens et les joueurs qui ne font pas partie des formations régulières des équipes qui peuvent être transigés. Tous les autres joueurs, 19 ans, 18 ans, 17 ans, 16 ans, il y a des périodes de transactions précises et c'est à ce moment-là seulement qu'ils peuvent être transigés. Alors, comme Halifax, j'ai l'impression qu'on voulait avoir Lawrence tout de suite. On ne voulait pas attendre à la période des fêtes. On a cédé 2 choix au repêchage pour l'instant. La transaction va s'officialiser un petit peu plus tard. Alors, voilà donc pour la section ouest de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pour ce qui est de la section centrale, ben, le Phoenix de Sherbrooke, 2 victoires et 1 défaite au cours de la dernière semaine. Sherbrooke qui a perdu à Drummondville vendredi soir, mais qui est allé quand même chercher 2 victoires, 38 points. Les Tigres de Victoriaville continuent là, d'être intraitables à domicile. Ils ont perdu un seul match à domicile. C'était le premier de la saison, le match d'ouverture contre Drummondville. Depuis ce temps-là, c'est pas compliqué, c'est 11 victoires en 11 matchs à domicile pour les Tigres. On accorde à peu près pas de but à domicile en plus, c'est phénoménal. Les Tigres, pour moi, c'est la surprise de la saison, il fait aucun doute. 16 victoires, 6 défaites, 3 défaites en bris d'égalité. On a permis que 53 buts en 25 matchs et à domicile, la moyenne défensive de la troupe de Karl Mallette est phénoménale. Les Tigres s'en vont sur la route pour 4 matchs dans les Maritimes parce qu'on doit reprendre cette semaine le match qui avait été annulé au Cap-Breton en raison de l'ouragan en début de de saison. Alors, en plus de visiter Charlottetown, Moncton et Bathurst, il faut d'abord aller faire le détour au Cap-Breton. C'est un voyage quand même difficile qui s'annonce pour les Tigres. Gabriel Daigle, la recrue de 16 ans, a signé le jeu blanc contre les Saguenayens 8-0. À Drummondville, ben, il y a eu la grosse bombe cette semaine. Éric Bélanger qui a pris la relève donc de Steve Hartley, qui avait été congédié par les Voltigeurs au retour du voyage dans les Maritimes. 3 matchs, Philippe Boucher a été derrière le banc de l'équipe, le directeur général. Et lorsque Éric Bélanger a vu la possibilité de s'amener à Drummondville, il a décidé de démissionner de son poste avec les Lions de Trois-Rivières. Les Lions de Trois-Rivières qui, incidemment, ont remporté une victoire et 2 défaites en fin de semaine en Utah avec Marc-André Bergeron, le DG, derrière le banc. C'était ça la semaine des Lions de Trois-Rivières qui sont de retour eux aussi à domicile cette semaine. Mais pour revenir aux Voltigeurs, 1 victoire et 1 défaite avec Éric Bélanger. On va vous présenter dans quelques instants cette entrevue réalisée avec Éric Bélanger. Les Cataractes de Shawinigan, 3 victoires cette semaine. On a permis que 3 buts en 3 matchs. Les Cataractes qui ont repris un peu les couleurs là, au cours des derniers matchs après cette interminable série de défaites. On parle de 6 gains lors des 8 dernières sorties. Les Remparts de Québec, petit passage difficile. 2 défaites en 2 matchs à Sherbrooke et à Victoriaville, mais à domicile, toujours parfait depuis le début de la saison. 14 victoires en 14 matchs pour la troupe de Patrick Roy, qui est première au classement général avec 43 points. L'équipe qui s'embarque pour un voyage en Abitibi de 3 matchs en 3 jours contre Val-d'Or 2 fois et contre les Huskies. Les Saguenayens ont finalement parvenu à faire oublier leur début de saison après avoir perdu leurs 5 premiers matchs. Ils ont maintenant une fiche de 13 victoires, 13 défaites à l'aube de la visite de Bathurst et de Halifax cette semaine. Je vais être à Chicoutimi mercredi pour le match contre le Titan. Ça va me faire plaisir de rencontrer les gens du club Sags 1973 avant le match. Aller discuter un peu de hockey avec les amateurs au Saguenay, ça me fait toujours plaisir. J'ai fait mes études à Jonquière au Saguenay. C'est toujours extrêmement plaisant de retourner dans cette région du Québec. L'Océanique de Rimouski est allé chercher une victoire contre Bathurst après avoir perdu contre Shawinigan. Donc, 1 seul point derrière les Sags. Le Drakkar de Bécomo, passage difficile, 5 défaites de suite, seulement qu'une victoire au cours des 9 derniers matchs pour le Drakkar de Bécomo, qui entre à la maison pour une séquence de 5 matchs contre Bathurst, Halifax, Chicoutimi, Sherbrooke et Drummondville. Est-ce que l'air de la Côte-Nord va faire du bien au Drakkar? Dans les Maritimes, ben, les Moussettes d'Halifax ont échappé un batch bête hier, menaient 4-0 contre Moncton, se sont finalement inclinés 5-4. Malgré tout, c'est un excellent début de saison pour les Mooseheads qui s'en viennent justement en sol québécois cette semaine. À Rimouski mercredi, à Chicoutimi vendredi et à Bécomo samedi. 14 victoires, 7 défaites, 3 défaites en bris d'égalité. L'ajout de Josh Lawrence et aussi le retour au jeu finalement de Zachary Lheureux qui aura manqué les 22 premiers matchs de la saison. Il a été de retour là, pour les 2 matchs du week-end contre le Cap-Breton et Moncton. Ajoutons Lheureux et Lawrence dans l'alignement d'Halifax. Ça va drôlement renforcer cette formation-là. Les Wildcats de Moncton, 2 matchs cette semaine, 1 victoire et 1 défaite. Cette victoire contre Halifax après avoir tiré de l'arrière 4-0 hier. Les Islanders de Charlottetown, c'est un petit peu plus difficile, donc 2 victoires à leurs 6 derniers matchs. Ils ont gagné 4-3 contre le Cap-Breton hier à Sydney. Le Titan d'Acadie Bathurst, somme toute, va pas si mal. 4 victoires à ses 6 derniers matchs. Le Titan qui va se battre, évidemment, là, pour une place en série parce que j'ai bien l'impression que Jacob Melançon et Riley Kidney en sont à leur dernier match avec le Titan d'Acadie Bathurst. Les deux vont valoir beaucoup sur le marché des transactions et Gordy Dwyer va sûrement tenter de les refiler. Je vais rencontrer Gordy justement cette semaine, fort probablement qu'on pourra en reparler lundi prochain dans notre édition. Les Eagles du Cap-Breton, ben, c'est 4 défaites de suite. Eux qui s'étaient replacés un petit peu, les voilà à nouveau au moment où on se parle, exclus des séries si la saison prenait fin. Ils sont 17e au classement général. Et les Sea Dogs ferment la marche. 2 défaites à domicile contre Val-d'Or et Rouyn-Noranda en fin de semaine. Les Sea Dogs qui n'ont que 6 victoires en 22 matchs. Parmi les nouvelles de la semaine, je vous ai parlé également de l'échange de Josh Lawrence. Il y a aussi une autre venue à Shawinigan, Léo Braillard, le joueur suisse, s'est finalement présenté aux Cataractes, de sorte que les Cataractes ont échangé Louis Robin, qu'on avait acquis de Rimouski, du côté de Val-d'Or. Et Maximilien Stroy s'est amené également avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, défenseur suisse qui avait commencé la saison avec le Ice de Winnipeg dans dans la Ligue junior de l'Ouest. Le joueur de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec, l'excellent défenseur Pierre-Olivier Roy des Tigres de Victoriaville, 7 passes en 3 matchs. Je vous le disais un peu plus tôt, la nouvelle de la semaine dans la LHGMQ, c'est la nomination d'Éric Bélanger avec les Voltigeurs de Drummondville. On s'est entretenu avec lui un petit peu plus tôt aujourd'hui.
Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste. Le sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Éric Bélanger, nouvel entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, une nouvelle qui a peut-être un peu surpris la semaine dernière. On s'attendait peut-être pas à ce tournant-là, mais pour toi, je pense que c'est quelque chose que ça fait longtemps que tu envisageais de travailler dans la LHJMQ.
C'est sûr que lorsque j'ai eu l'opportunité d'avoir des conversations avec les Lions de Trois-Rivières au début de la franchise, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'équipe dans la Ligue junior majeure du Québec qui avait de disponibilité comme entraîneur-chef. C'est sûr que l'occasion était bonne pour moi de monter de calibre. J'étais rendu à un nouveau défi. Mes deux années au Midget 3 m'avaient préparé pour ce défi-là. Mais oui, je m'en ai pas caché. J'aimais la Ligue, j'aime le professionnalisme de cette Ligue-là. Le fait que Drummondville s'est libéré et que Phil est quelqu'un que j'ai en haute estime, je me devais d'aller jusqu'au bout de ce processus-là.
Est-ce que ça a été long? Est-ce que quand tu as contacté Phil, ça s'est fait rapidement? Vous avez joué ensemble à Los Angeles, vous vous connaissez bien, vous êtes deux gars de la région de Québec. Ben, tu n'es pas originaire de Québec, ouais. Mais on dirait qu'on t'identifie beaucoup à Québec, là.
Tout comme, oui. Écoute, ouais. On a joué 2 ans ensemble et on s'est entraîné une dizaine d'années, 10-12 ans ensemble avec le même entraîneur, Marc Sauvestre. Donc, on se connaît très bien. Ça a pris environ une semaine et demie, là, lorsque j'ai contacté Phil le lendemain du congédiement de Steve Hartley. Et puis nous, les deux, on avait des matchs à jouer durant la fin de semaine. Donc, après la fin de semaine, on s'est reparlé. Et puis, je pense que ma décision était prise de mon côté. Ce poste-là me parlait beaucoup. Le fait de travailler avec une équipe qui s'en vient à maturité l'année prochaine et dans 2 ans était un élément clé, surtout de travailler avec l'équipe, avec Philippe et l'équipe entourant les Voltigeurs de Drummondville, qui est très dédiée à cette franchise-là. Les gens à qui j'ai parlé étaient tous positifs, donc ça a été une question de s'entendre sur les modalités d'un contrat qui n'a pas été très, très long.
Qu'est-ce que tu connais des Voltigeurs? Tu n'avais pas vraiment le temps, j'imagine, de suivre beaucoup des matchs avec tes fonctions à Trois-Rivières?
Ben, dans le fond, là, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que c'est sûr que dans la semaine qu'on s'est parlé, j'ai commencé à regarder les statistiques, ces choses-là, si... ça allait être moi là, qui devenais l'entraîneur, mais je voulais partir là-bas avec une page blanche. Tu entends des choses de gauche à droite. Je voulais me faire mon idée. J'ai regardé le match de Blainville-Boisbriand à la maison et le lendemain, j'étais déjà à l'aréna à faire des trios, des attaques à 5 et ces choses-là avec les assistants-entraîneurs qui étaient déjà en place. Phil m'a briefé beaucoup sur la direction qu'il voudra prendre au fait et pour les 2 prochaines années. Donc là, je suis en train de me faire une tête, mais de ce que j'ai vu contre Boisbriand et contre Sherbrooke, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre. Nous allons avoir l'amoureux côté Mercer après le temps des fêtes. Phil est un directeur général assez agressif aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là dès cette année pour surprendre, parce qu'il va y avoir beaucoup de bonnes équipes. Mais de la façon que j'ai vu ces joueurs-là jouer contre Boisbriand et contre Québec, ils ont mis la barre assez haute. Hier, ça a été une performance un peu plus flat de notre côté, ce qui était peut-être ce qui était expecté à avoir. Là. Je cherche le mot québécois français, mais avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les distractions, les nouveaux entraîneurs, je pense que les gars sont tombés à flat. Donc aujourd'hui, ça prenait une journée de congé et on repart la machine demain.
Tu as gagné ton premier match quand même contre une des bonnes équipes de la Ligue en partant. C'est un bon test. Tu as aimé ce que tu as vu. Est-ce que tu as pris tout de suite tes aises avec les joueurs derrière le banc ou si tu regardais ça un petit peu plus avec du recul?
Non, j'ai jumpé dans le bain, comme on dit. Puis ça m'a pris à peu près une période et demie pour être capable de dire « OK, j'ai plus besoin de mon carton ». Une chose qui est importante pour moi, c'est d'appeler les gars du bon nom. J'aime pas ça appeler un joueur « Hey, Bélanger, Yonet, t'es le prochain, mm-hmm. tu sais ». Il faut que ça soit fait, j'aime le prénom ou les noms et les surnoms. Donc, ça m'a pris une période et demie. Hier, je suis déjà correct, puis je sais où je m'en vais pour le reste de la saison.
Éric, qu'est-ce que tu retiens de ton passage avec les Lions de Trois-Rivières? On a beaucoup parlé en début de saison, on s'était parlé 86 joueurs l'année passée. Tu regardes cette année comment c'est parti aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ça, de cette ligue-là au Québec quand tu la regardes maintenant avec un effet de recul? Est-ce que ça va fonctionner à long terme, tu penses? Est-ce que ce genre de calibre-là a sa place ici au Québec?
C'est sûr que c'est pas une ligue facile. Moi, je suis parti avec l'an numéro un d'une nouvelle organisation avec 86 joueurs, la pandémie. C'est sûr que c'était tout le cocktail molotov de partir un petit peu sur les chapeaux de roue, mais on a fait beaucoup de bonnes choses. Ce que je retiens, c'est cette année, on a eu plus de stabilité. Déjà, l'équipe avait moins de virements de personnel. Je pense que c'est le voyagement est difficile. Je pense que il y a un mix de joueurs à avoir. Les joueurs qui sont signés avec Laval, les joueurs que les Lions signent sur des contrats de la ECHL. Donc, il y a beaucoup de... Moi, j'appelle ça le un tiers d'une équipe. Les jeunes qui arrivent, qui ont peut-être encore le rêve de monter. Le un tiers qui veulent avoir des stats pour s'en aller en Europe, faire plus de sous. Et les bons vétérans qui aiment jouer au hockey. Donc, c'est difficile d'avoir un mix à tous les jours. La différence avec le junior, moi, pour l'avoir vécu, je pense que de 16 à 20 ans, ton rêve de monter dans la Ligue nationale est peut-être au début de ton rêve. Donc, je crois que c'est peut-être plus facile de les garder allumés jour après jour. Est-ce qu'il y a de la place? Je l'espère pour la ville de Trois-Rivières. Ils ont construit un bel aréna. Le logo, le branding des Lions est incroyable. Moi, j'ai appris beaucoup dans cette ligue-là. Je peux dire qu'il n'y a plus grand-chose qui me fait peur à partir de là.
Et pour le bénéfice des gens qui écoutent et tout ça, tu n'es pas parti de là de façon amère non plus. Là.
Non. Non, du tout. Est-ce que c'était parfait? Non. Est-ce que cette année, il y avait une lourdeur à un moment donné, puis deux, trois semaines, même moi, je devenais négatif, il y avait une lourdeur à l'intérieur. J'ai même dû parler à mes joueurs pour leur dire que je m'excusais de comment j'étais. C'est pas cette personne-là que je suis normalement, que je veux être. Ça m'a allumé des lumières pour le futur que je dois, comme entraîneur, tu dois rester positif en contrôle. Tu dois rester du côté de tes joueurs, surtout la nouvelle génération. Donc, cet épisode-là va faire en moi que je vais devenir un excellent entraîneur de ce côté-là parce que je vais l'avoir appris à la dure. Mais j'ai eu des conversations avec Marc-André, des choses de son côté, de mon côté, qui n'étaient pas parfaites, mais je suis parti de là-bas avec... J'ai remercié tout le monde, j'ai serré Marc-André dans mes bras, je lui ai souhaité bonne chance. Je l'ai remercié d'avoir eu ma première... qui m'a donné ma chance professionnellement. Et je pars de là grandi et un meilleur entraîneur et une meilleure personne.
Tu parles du niveau professionnel, tu reviens au niveau junior, ça peut avoir l'air de l'extérieur d'une démotion, mais au niveau médiatique, au niveau couverture, au niveau potentiel, le junior est peut-être en avance de la ECHL à cause de ça, même si les joueurs sont plus jeunes et qu'ils ne gagnent pas leur vie avec ça. Là.
C'est sûr que j'ai parlé à beaucoup de gens de référence à l'entour du hockey par rapport à cette décision-là. On m'a tous dit que ce n'était pas un pas derrière. Au contraire, eux disaient que c'est la meilleure décision à prendre pour moi, pour ma carrière. Aussi, il faut que j'aille à l'aréna et que j'aille du plaisir à tous les jours. Ce qui a été plus difficile peut-être cette année à certains moments, mais en général, j'avais du fun d'aller à l'aréna à Trois-Rivières. Mais maintenant, tu deals avec 32 équipes de la Ligue nationale parce que tu as beaucoup de joueurs qui peuvent être repêchés. Les directeurs généraux qui viennent voir ces joueurs-là, tu sais jamais, eux peuvent voir une façon de jouer qui aime la structure que tu peux apporter à ton équipe et aussi... tu crées des liens. Lorsque tu crées des liens, tu sais pas où que ça peut te mener. Puis je pense que dans la ECHL, tu es avec une organisation et non les 32 autres. Donc, de ce côté-là, je pense que ça peut être une ouverture pour se créer des liens et on sait jamais où que ça pourra nous mener.
Éric, merci beaucoup. Bonne chance. On va se croiser bientôt. J'ai l'intention d'aller voir les voltigeurs prochainement. Puis, félicitations. Puis, je pense que c'était un bon fit pour toi, comme on dit, là, géographiquement parlant, puis tout ça. Là,
aussi.
Puis, comme tu as dit, pour l'équipe qui arrive à maturité l'an prochain, là, je pense que ça tombe bien pour toi. Merci beaucoup. Félicitations encore.
Merci, Stéphane.
OK.
Alors voilà donc Éric Bélanger qui a succédé à Steve Hartley derrière le banc des Voltigeurs de Drummondville. Éric Bélanger qui va diriger les Voltigeurs demain soir à Shawinigan contre les Cataractes. Belle occasion pour moi d'aller faire un petit tour également du côté de Shawinigan demain. Je vous parlais de Jordan Dumais des Moussets d'Halifax un peu plus tôt. Jordan Dumais est étincelant depuis le début de la saison. C'est le meilleur pointeur au moment où on se parle de la Ligue canadienne de hockey. devant Connor Bedard des Pats de Regina, ce n'est pas rien. J'ai fait un brin de discussion avec Jordan Dumais un petit peu plus tôt aujourd'hui.
Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste. Le sympathisant, une série originale HBO à regarder dès maintenant sur Crave.
Les Moussets d'Halifax, premièrement, félicitations, signature d'un contrat avec les Blue Jackets de Columbus. C'est un bel accomplissement, considérant qu'il restait encore beaucoup de temps là, avant d'être obligé de t'offrir ce contrat-là. Tu dois vraiment être heureux de la tournure des événements.
Oui, j'étais content. Ouais, merci beaucoup. Ouais, comme j'ai dit, j'étais content. C'était bon pour ma famille et moi.
Qu'est-ce que ça représente? C'est juste une étape, tu vas me dire. Là, on n'est pas encore rendu dans la Ligue nationale, mais au moins on sait que pour quelques années, là, on a peu à se préoccuper de ça.
Oui, comme tu dis, moi, juste une étape et juste un autre chapitre dans ma journée. C'est comme milestone, mais oui, j'étais content de faire si tôt que ça. Donc.
Parle-moi de la saison des Mooseheads d'Halifax. Je sais qu'on fait l'entrevue au lendemain d'une défaite difficile. Là, vous meniez 4-0 à Moncton, puis vous avez échappé le match. Mais d'une façon générale, c'est un bon premier tiers de saison là, pour l'équipe en ce moment.
Oui, on a eu je crois qu'on joue pas mal bien, mais on joue fort, puis on a eu un vraiment bon début. Mais là, on a des drops un peu. On a perdu une couple de games. Mais je crois qu'on apprend beaucoup de ces games-là, puis... On est prêt, je crois que on est prêt pour être une grosse équipe pour gagner la Ligue.
Tu as l'impression que les Mooseheads, tu sais, il y a bien des gens qui disent que ça va être une bonne saison l'an prochain, mais cette année, vous êtes capable quand même de faire un bon bout de chemin.
Oui, c'est sûr. Mais je crois qu'on a montré ça au début de l'année, qu'on est capable d'être une vraiment bonne équipe. Et, je crois que notre management, c'est ça aussi. On veut juste faire un gros trade. D'abord, je crois qu'on est tous sur la même page et on sait qu'on peut gagner d'abord.
Le retour de Zachary Lheureux, l'arrivée de Josh Lawrence, une transaction qu'on a appris, ça fait des Mooseheads, là, une équipe. En tout cas, dans les Maritimes, vous allez être dur à rattraper.
Oui, c'est sûr. I mean, Lheureux, il nous a aidés, c'est sûr. I mean, ça fait deux games, mais ça va prendre une couple de games pour être en game shape, mais il joue vraiment bien. Ça l'aide. Et Josh Lawrence aussi, ça va aider beaucoup. Et ça nous donne la confiance à nous que, comme j'ai dit, ça nous dit que notre management, il sait qu'on va gagner. Donc.
54 points en 24 matchs pour toi, c'est... on se disait, hey, cette année, ils vont le surveiller plus. Il a fait 100 points 17 ans l'an passé, mais ça n'a pas l'air à trop te déranger à venir jusqu'à présent.
C'est sûr que c'est un peu différent que l'année passée, le coverage puis tout, mais je crois que juste en équipe, on joue vraiment bien. Ça m'aide beaucoup, ça fait facile pour moi. Donc.
Jordan, dans les prochains jours, peut-être jeudi ou vendredi, on va annoncer les invités pour le camp d'équipe Canada Junior, pour le camp de sélection. Est-ce que tu as l'impression qu'ils n'ont pas le choix? Là? Tu leur as pas donné le choix de que tu vas faire partie de cette liste-là et que tu vas avoir une chance de jouer pour cette équipe-là à Noël?
Oh ouais, moi je crois que ce serait cool. I mean, c'est pas mon choix, mais moi je crois que j'ai fait beaucoup pour être dans les conversations. Puis ça serait vraiment le fun être capable de représenter mon pays, puis en même temps, c'était à Halifax, c'était vraiment cool. Non.
Est-ce que tu vas te présenter là comme un négligé si jamais on t'invite? Puis tout ça, tu sais, on dit tout le temps que c'est pour un tournoi pour les joueurs de 19 ans, tu as juste 18 ans. Est-ce que tu as l'impression que tu vas être capable de faire ta marque dans cette équipe-là? C'est une question qu'on va te poser beaucoup là, si tu te présentes au camp, évidemment, là, mais est-ce que tu penses que tu as ta place dès cette année? Là?
Moi, si je serais invité, j'irais juste comme si j'étais à la même âge que tout le monde. I mean, je veux jouer ma game, puis je veux pas trop penser plus. Et moi, je vais aller sur la glace et je veux juste faire ce que je fais. Puis ça va être leur décision si ils veulent sur l'équipe.
Quelles sont tes conversations? Tu as signé ton contrat. Est-ce que les gens de développement de Columbus parlent beaucoup, passent beaucoup de temps avec toi depuis le début de la saison?
Un peu. Ils me disent que j'ai pas mal souvent. Puis les trainers aussi, hors de la glace. Et ouais, ils sont venus un week-end, ils ont regardé mes games, mais ouais, j'ai parlé pas mal beaucoup, puis ouais, j'aime beaucoup, c'est des bonnes personnes, puis ils m'aident beaucoup dehors.
Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont fait un vol au repêchage? Tu as toujours voulu dire que tu pensais que tu serais repêché avant, puis finalement, la déception d'avoir dû attendre la fin de la troisième ronde, maintenant, est-ce que c'est oublié?
Je sais pas, peut-être un peu. Ça serait plus une question au public, mais moi, je crois que je sais comment bon que je suis. Puis, mais à la fin de la journée, j'ai oublié des choses comme ça, le draft puis tout. Puis, je vais jouer ma game.
Le rang de repêchage, quand tu arrives dans la Ligue nationale, c'est plus important.
Oui, exactement. Ouais, c'est pour ça que j'y oublie pas, mais à la fin de la journée, c'est pas la première chose que j'y pense. Puis, ça, c'est le pass. D'abord, maintenant, c'est juste tout. C'est une nouvelle saison et tout le monde va juste à la glace. Et c'est comme ça que tu juges les joueurs. Ouais. Comme moi, d'abord.
D'avoir autant de points que Connor Bedard, qu'est-ce que ça te
C'est cool. I mean,
fait?
ouais, je vois ça. Toutes les games, ils me passent. Après, moi, je le passe et c'est proche. Mais ouais, c'est cool. C'est tellement un bon joueur. I mean, je n'ai pas besoin de vraiment lui parler. Tout le monde sait ça. Mais ouais, c'est cool d'être comme ça maintenant. Donc.
Dans le fond, tu as juste un an de différence avec lui et puis vous avez à peu près le même nombre de points, là.
Ouais, on peut le dire comme ça, mais lui est tellement bon. Il va aller premier overall, puis il va être dans la nationale prochaine. Mais ouais, c'est fun d'être en conversation avec un joueur comme ça.
Jordan, merci beaucoup. Félicitations pour le début de saison. Lâche pas, comme on dit. Puis j'ai comme l'impression qu'on va se voir à Moncton pour le camp de sélection de l'équipe canadienne.
Ouais, peut-être. Merci beaucoup pour m'avoir.
Merci, Jordan. Salut.
Ouais, pas de problème. Salut.
54 points depuis le début de la saison. Un de plus que Connor Bedard, 53 dans la Ligue de l'Ouest. Bedard qui a connu un match quand même intéressant, un tour du chapeau à Victoria en fin de semaine, où il a eu la chance de jouer pour la première fois de sa carrière junior en Colombie-Britannique, d'où il est originaire, parce que l'an passé, on sait la saison, le calendrier était fait en sorte que chaque association jouait de son côté dans la Ligue de l'Ouest. Et l'année d'avant, ben, c'est la même chose. Il y avait eu seulement qu'une saison de 20 matchs pour Connor Bedard. Alors, il a visité Vancouver et Victoria en fin de semaine. D'ailleurs, sa visite à Victoria a attiré 7 000 spectateurs, alors qu'habituellement, les Royals jouent devant une foule d'à peu près 3 000, 3 500 spectateurs. Bédard a 53 points depuis le début de la saison et Dumais en a 54. C'est quand même pas rien. Ils n'ont qu'un an de différence, je le disais dans l'entrevue. C'est phénoménal la saison de Jordan Dumais là, qui s'en va vers une deuxième campagne consécutive de 100 points. J'en ai effleuré un mot dans l'entrevue avec Jordan Dumais, probablement jeudi. J'ai pas eu de confirmation, j'ai vérifié ce matin. Habituellement, c'est le 1er décembre qu'on annonce la liste des invités au camp de sélection d'équipe Canada junior. On m'a dit du côté d'Hockey Canada que c'était pas certain que ce serait jeudi, mais j'aime à penser que d'ici la fin de la semaine et que lundi prochain, on va pouvoir, dans notre balado, parler justement de la liste des invités au camp final de sélection d'équipe Canada junior. Parmi les autres annonces cette semaine qu'il faut surveiller, mercredi 18h30 sur les ondes de RDS à Hockey 360, la Ligue de hockey junior majeur du Québec va annoncer les nouveaux intronisés au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On sait qu'il n'y a pas eu d'intronisation depuis 2020. La QV 2020 n'a pas eu sa cérémonie encore en raison de la COVID. On avait annoncé à la fin de la saison, en fait à la fin de l'année 2019, les nominés pour 2020. Roberto Luongo fait partie de ce groupe, Simon Gamache notamment. Et là, cette semaine, on va connaître la QV 2023 des intronisés là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je veux juste me reprendre, je ne veux pas oublier personne. Alors, pour la QV, donc, qui sont en attente, Simon Gamache, Roberto Luongo, Stéphane Robida et Rick Vive avaient été intronisés du côté des joueurs et Clément Jaudouin comme entraîneur. Alors, eux ont été nommés à la fin de l'année 2019, mais n'ont pas eu leur cérémonie d'intronisation en 2020. Alors, ces 5 intronisés-là, plus ceux qu'on va annoncer cette semaine, dont je ne connais pas encore l'identité, on va connaître ça mercredi en direct sur les ondes d'RDS, vont faire partie donc d'une intronisation double, si on veut, 2020 et 2023, quelque part le printemps prochain. La Ligue de hockey junior majeur du Québec, donc, qui va reprendre cette coutume des intronisés. On est à 104 membres au temple de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis ses tout début en 1995. Il y a 29 bâtisseurs et 75 anciens joueurs qui font partie du temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, annonce à suivre cette semaine. Ne manquez pas, 18h30, mercredi. Hockey 360. La Ligue junior de l'Ontario a également annoncé au cours des derniers jours les 4 villes qui posent leur candidature pour la Coupe Memorial de 2024. Cette année, ça aura lieu à Kamloops, la Ligue de l'Ouest qui reçoit en 2023, mais pour 2024, Kingston, Niagara, Saginaw aux États-Unis et Sault Ste. Marie ont déposé la candidature pour espérer recevoir le tournoi de la Coupe Memorial en 2024. Il y a un processus qui va se faire et on va connaître l'identité de cette ville hôtesse le printemps prochain, au mois de mars, si je ne m'abuse, donc pour la ski de la Coupe Memorial de 2024. Et ça reviendra au Québec, on le sait, en 2025. Peut-être vous mentionnez également en terminant que cette semaine, ben, c'est une semaine où il n'y a pas de match du Rocket sur les ondes de RDS. Nos prochaines télédiffusions en ce qui concerne le hockey du Rocket, ce sera le 9 et le 10 décembre avec la visite des sénateurs de Belleville qui seront de passage à la Place Belle pour ces deux matchs qui vous seront présentés sur nos ondes. Un petit mot peut-être également avant de vous laisser aller sur, on aime faire quand le temps le permet, là, le tour un petit peu des meilleurs espoirs du Canadien, de la façon dont ça se passe pour eux là, au cours de leur saison respective. Le joueur qui obtient en ce moment le plus la plus haute moyenne de points par match dans les espoirs du Canadien, c'est Jared Davidson des Thunderbirds de Seattle qui a 27 points en 16 matchs depuis le début de la saison. Riley Kidney va évidemment bien avec Batters. Owen Beck avec les Steelheads du Mississauga est rendu à 15 buts en 20 matchs. Sean Farrell a commencé sa saison, 13 points en 9 matchs. Il va très bien lui aussi avec le Crimson de Harvard. Des nouvelles de Philippe Méchard à Kitchener, c'est 16 points en 14 matchs. Logan Mailloux avec les Knights de London, c'est 14 points en 16 matchs. Luke Tuck à l'Université de Boston, 8 points en 12 matchs. Des nouvelles également de Miguel Tourigny du côté de la Slovaquie, 7 points en 11 matchs. Emil Heinemann a commencé sa saison également en Suède, lui qui avait été blessé au camp du Canadien, 2 points en 4 matchs à Leksand dans la Swedish Hockey League. Alors, ça fait le tour un peu des informations sur les espoirs du Canadien. J'ai oublié de vous mentionner également, c'est une note un peu statistique, mais dans le match que le Rocket a disputé à Belleville vendredi soir, Otto Leskinen a marqué le millième but de l'histoire du Rocket, le premier du match dans une victoire de 7-5. Alors le Rocket qui a maintenant 1000 buts dans son histoire, c'est la sixième saison de l'équipe à Laval. Alors, ça fait un peu le tour donc de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Félix Payet à la technique, Luc Dansereau à la coordination, mes invités Xavier Simoneau du Rocket de Laval, Éric Bélanger des Voltigeurs de Drummondville et Jordan Dumais des Moussettes d'Halifax. On se retrouve lundi prochain avec les nouveaux membres au Temple de la Renommée qui seront annoncés, les invités du camp de sélection d'équipe Canada Junior. Ce sera encore une fois un épisode qui, je pense, sera très intéressant. Bonne semaine de hockey. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.